Chantal Jacquet, bonjour.
Bonjour.
Tes premiers travaux portaient sur Spinoza, ta thèse aussi portait sur Spinoza. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à l'étude du spinozisme au début ?
Alors au tout départ, je n'avais pas spécialement l'intention de travailler sur Spinoza. Disons que je le fréquentais un peu en dilettante, comme beaucoup d'adolescents qui vont chercher dans l'éthique de Spinoza plutôt un aspect de manuel, hein, après la formule qu'a employé Spinoza, nous conduire comme par la main vers la béatitude. On cherche une forme de guide de vie en retenant plutôt certaines phrases qui sonnent plutôt que on les comprenne dans leur profondeur. Je pense en particulier à des formules comme la sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie, qui a été pour moi une ressource pour affirmer une force de vie. Et puis, peu à peu, plus profondément, quand j'ai entamé la lecture de l'éthique, comme beaucoup, je ne comprenais rien au départ. Donc ça a été une lecture assez longue et une lecture en même temps très très libératrice, parce que chez Spinoza, ce qui m'a profondément intéressé et ce qui a vraiment contribué à me forger, c'est l'idée qu'il n'y ait pas de libre arbitre, mais qu'en même temps, on puisse développer une puissance d'agir. Parce que très généralement, quand on est dans un système déterministe, la nécessité semble assimilée à la fatalité, et dès lors, on est sans cesse renvoyé au problème de l'action, à une forme de quiétisme ou de passivité face aux choses. Donc ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé chez Spinoza, c'est cette affirmation d'une puissance d'agir dans un cadre où la nécessité faisait loi. Et je trouve que c'est précisément quelque chose de très libérateur, parce que dans l'idée de libre arbitre, il y a toujours cette idée d'un choix dont on est responsable, avec la culpabilité que ça peut entraîner, comme si on maîtrisait toutes les choses et qu'au fond, on avait le pouvoir de renverser les choix. Et je crois que dans les philosophies du libre arbitre, elles s'accompagnent toujours de l'idée de la faute, de l'idée d'une culpabilité, des comptes à rendre. Évidemment, chez Spinoza, on peut avoir des comptes à rendre, mais c'est plutôt parce que la société va se protéger contre les erreurs ou les fautes politiques que les êtres vont faire, et non pas parce qu'ils seraient des sujets moraux qui auraient pu ne pas faire ce qu'ils ont fait. Donc j'ai trouvé dans Spinoza l'expression d'une très grande liberté.
Et quand tu as commencé à travailler sur cet auteur, sur son système, qui est-ce qui t'a influencé parmi, je sais pas, les commentateurs ou peut-être des philosophes extérieurs au spinozisme, mais que tu aurais pu retrouver dans Spinoza ?
Alors disons qu'au départ, je pense que j'ai été très marquée par l'enseignement d'André L'Écrivain, que j'ai eu comme professeur de Cagnes, précisément par la rigueur intellectuelle qu'il pouvait avoir et la manière dont il nous permettait d'entrer dans l'éthique à travers surtout la théorie de la connaissance et la relation entre vérité et histoire. Donc c'était peut-être une des premières approches qui invitait à penser Spinoza dans la totalité du corpus, non pas en coupant la théorie de la connaissance, la partie 1, la partie 2 de l'éthique, de la partie théologique et politique. Donc ça a été une première expérience assez décisive. Et puis ensuite, j'ai suivi aussi l'enseignement d'Alexandre Matron à l'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, qui a été marquant pour moi, dans la mesure où sa vision de Spinoza permettait enfin d'embrasser l'ensemble du corpus. Donc évidemment, ça s'est soldé par la lecture du livre « Individu et communauté » chez Spinoza, qui m'a beaucoup marquée. Ça m'a tellement marquée que quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise pour la première fois, la thématique que j'avais prise, c'était « Individu et pouvoir » chez Spinoza. Donc c'était vraiment dans la lignée d'Alexandre Matron. Et j'étais en même temps frappée par une sorte de tension au sein des études spinozistes entre les interprètes marqués par la lecture structuraliste de Guéroult, par la pratique de l'architectonique des systèmes.
Donc Matteron.
Donc Matteron, évidemment. Et par ailleurs, quelqu'un auquel Matteron a prêté son concours, à qui il a aussi permis d'avoir une forme de protection en France, la lecture de l'Anomalie sauvage d'Antonio Negri. Parce que pour moi, c'était un monde radicalement nouveau, une manière de pratiquer Spinoza totalement différente de ce qu'on pouvait avoir l'habitude de pratiquer, puisque au départ, pour moi, c'était une sorte de monstre, ce texte, dans la mesure où c'est un usage de Spinoza qui tordait Spinoza dans différents sens pour pouvoir forger une pensée politique. Donc c'était une sorte d'univers spinoziste imaginaire pour moi, totalement fabriqué. Et donc cette tension entre l'exigence de la rigueur qui était donc le maître mot d'André l'écrivain, cette pratique de l'architectonique des systèmes dans laquelle je me reconnaissais pleinement, et puis cette espèce d'anomalie sauvage au sens fort, précisément cet usage de Spinoza, me paraissait extrêmement marquant. Et du même coup, je me demandais comment on pouvait lire le même auteur de façon aussi différente. Ce qui m'avait frappé, c'était ça, cette possibilité qu'offrait un auteur d'une approche à la fois d'histoire de la philosophie et en même temps de philosophie pratique pour pouvoir penser la politique, renouveler les cadres de la politique, faire un détour au-delà de Marx en faisant retour à Spinoza. Donc c'est ça qui m'a un petit peu structuré, je pourrais dire, dans ma pensée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé tout au long de mon travail de tenir ensemble ces deux possibilités de traiter de Spinoza ou d'un auteur, c'est-à-dire cet usage explicatif rigoureux et puis cet usage instrumental. Alors il y a aussi d'autres éléments qui m'ont marqué, puisque ce qui m'intéresse dans un auteur, c'est précisément ce que je ne comprends pas, chercher à comprendre ce que je ne comprends pas, ce qui m'échappe, pour aller aux limites de ma propre pensée, pour essayer, en quelque sorte, par le fait de se frotter à une altérité, de se dépasser soi-même et d'élargir ses horizons étroits de pensée, bouleverser ses catégories. Donc c'est pourquoi j'ai essayé de travailler d'abord sur la partie 5 de l'éthique, par exemple, quelqu'un comme Antonio Negri considérait comme une forme de retour à une mystique, ou qu'il laissait de côté, ou qui était dérangeant dans sa propre interprétation. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé d'essayer de comprendre comment, en fait, chez Spinoza, on pouvait avoir une réflexion sur l'éternité qui échappe à une vision mystique, et c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur cette vision subspecie éternitatis, et essayer de comprendre comment ça s'articulait avec la durée. Et là aussi, en voulant tenir les deux bouts, c'est-à-dire à la fois penser l'éternité et la durée, et non pas uniquement, par exemple, congédier la durée et la temporalité comme étant quelque chose de tout à fait illusoire, pour valoriser l'éternité, ou à l'inverse, être gêné par ces relents de religiosité qui pourraient émaner d'une pensée de l'éternité et ne valoriser que l'historicité, le devenir actif, un peu comme toi tu l'as fait à travers l'expérience de l'éternité, saisir ces deux aspects à la fois. Et de ce point de vue, quelqu'un comme Jean-Marie Bessade, qui a dirigé ma thèse, a été aussi également très précieux dans mon parcours, parce que comme il ne s'avouait pas spinoziste, au sens fort du terme, puisque il regardait Spinoza aussi à travers la confrontation avec Descartes, ça m'a permis de me mouvoir dans Spinoza avec une posture qui était à la fois celle du dedans-dehors, être à l'intérieur tout en étant à l'extérieur, c'est-à-dire interroger le texte en posant des questions un petit peu insolentes ou en allant à l'encontre des interprétations établies. Donc ça a été aussi pour moi très très précieux d'avoir une sorte de regard critique à l'égard de Spinoza, regard critique qui était plus facile d'avoir en tant que femme, notamment par exemple par rapport à la question politique, puisque d'emblée les femmes ne sont pas intégrées à la démocratie spinoziste, bien que Spinoza, dans le traité politique, dise qu'on puisse concevoir plusieurs genres de démocratie. Donc ce n'est pas son dernier mot sur la question. De ce fait, ça m'a permis d'avoir une sorte de posture de recul aussi et ne pas être dans la fascination pure et simple à l'égard d'un auteur qu'on vénère et dans lequel on se reconnaît.
Oui, Bessade est effectivement plus connu pour ses travaux sur Descartes, mais il me semble qu'il a fait pendant plusieurs années de suite des cours sur Spinoza, qui sont inédits apparemment.
Tout à fait, j'ai eu l'immense chance de pouvoir en suivre une partie, et je trouvais que son approche de Spinoza permettait justement de renouveler le commentaire de Spinoza, d'une part parce que au lieu d'accuser la distinction avec Descartes, être dans une sorte de confrontation permanente qui invitait à choisir entre les deux auteurs, il a beaucoup œuvré pour le rapprochement entre les deux pensées, montrer la continuité entre les deux pensées, ce qui n'empêchait pas évidemment qu'il soulignait les divergences. Et son travail, par exemple, pour ce qui concerne les passions et les affects chez Spinoza, a été très précieux pour moi parce que il y avait une exigence de confrontation conceptuelle terme à terme, une volonté de ne pas se laisser enfermer dans les interprétations préétablies et le refus de se classer dans un camp, dans une logique de camp qui est préjudiciable, je pense, et qui continue à prévaloir dans les études actuelles, puisque très souvent on est frappé par le fait que les spinozistes ont tendance à considérer que Spinoza est à part et donc à se situer dans une lignée qui passerait ensuite par Marx et les penseurs politiques contemporains, alors que on a parfois une autre vision où quand on étudie par exemple les rapports corps-esprit, on va penser Descartes, Malebranche, Leibniz, laisser de côté Spinoza, où on va penser un rapprochement entre les philosophies anglaises et les philosophies françaises, mais il est très rare que lorsqu'on aborde un problème comme la théorie de la connaissance ou les rapports corps-esprit, on saisisse ensemble à la fois donc Hobbes, Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz, Locke. Il y a toujours une pensée de la séparation, et je crois que cette séparation est liée au fait que on a construit la figure de Descartes et celle de Spinoza comme étant antagoniques, et de ce fait, il faut nécessairement choisir un camp. Donc, travailler avec Bessade, c'était sortir de cette logique de camp et pouvoir s'interroger de façon parfois faussement naïve sur des interprétations reçues. Je pense en particulier sur le fait qu'on pouvait penser que chez Spinoza, nécessairement l'éthique passait par la politique, et je pense à des textes salutaires de Bessade où il pose la question de savoir si on peut se sauver seul, à peine le peut-on mais on le peut, donc qui amène un peu à tempérer l'automatisme de la liaison éthique et politique, même si elle est nécessaire chez Spinoza. Et donc ça m'a beaucoup formée parce que ça m'a appris à regarder les choses de façon plus distante, plus lucide, et ne pas d'emblée reprendre les interprétations établies.
Alors justement, parlons un peu de ton regard à toi. Si tu devais résumer quels sont les traits saillants de ta propre interprétation de Spinoza ou ta propre lecture du spinozisme, qu'est-ce que tu mettrais en premier ?
Mais je mettrais cet effort pour, au fond, concilier cette tension entre une pensée historique, architectonique du commentaire de Spinoza, et puis une pensée de l'usage. Je caractériserais ma pratique de Spinoza selon deux aspects qui sont complémentaires. D'une part, ce que j'ai appelé dans un texte récent le pointillisme méthodologique, et d'autre part, une pensée de l'usage et de la force des idées. Plus précisément, ce qui a caractérisé ma pratique de Spinoza ou ma lecture, c'est le souci, au sein des interprétations, d'opérer une sorte d'analyse de celles qui étaient possibles et celles qui ne l'étaient pas. Donc plutôt que d'avoir une sorte d'interprétation d'ensemble systématique de Spinoza, j'ai plutôt essayé de comprendre ce qui empêchait au fond de comprendre Spinoza, et en particulier essayer de revenir sur des grandes interprétations qui se sont imposées et qui, sur le fond, devenaient dogmatiques. Alors, le pointillisme méthodologique, c'est quoi? C'est d'abord un souci de comprendre un auteur à travers son langage, à travers les mots qu'il choisit. Et cette attention aux mots, hein, puisque c'est dans le mot que nous pensons, et je crois que chez Spinoza, il y a une réflexion aussi sur le langage, puisque précisément, il va travailler sur les dénominations pour refondre leur signification. Et c'est cette attention aux mots qui m'a permis, par exemple, de revenir sur l'interprétation canonique de Spinoza en termes de parallélisme psychophysique, hein, et de, à partir de la critique de cet usage du parallélisme prêté à Spinoza, ça a été un moment décisif parce que, d'une part, le terme, comme on le sait, vient de Leibniz et il est appliqué à sa propre philosophie. Il est appliqué abusivement à Spinoza qui ne l'emploie pas. Et chercher ce qui, dans le texte, tient lieu de parallélisme ou chercher l'expression exacte de Spinoza m'a permis de voir que chez Spinoza, il y a une égalité entre la puissance de penser et la puissance d'agir, que les termes qu'il emploie, c'est celui, enfin, c'est l'adjectif aekus, ou bien c'est l'idée de simultanéité, c'est souvent aekus et simul qui revient sous sa plume. Et ça a permis d'abord de revoir l'union psychophysique, par exemple, et de voir que même s'il y a une corrélation entre la puissance de penser et la puissance d'agir, cette corrélation ne prend pas la forme d'une répétition mécanique. Donc ça m'a permis de saisir la différence au sein de l'identité, une seule et même chose que sont le corps et l'esprit, mais deux expressions. Et de ce fait, de façon plus centrale, ça m'a conduite à essayer de penser cette unité du corps et de l'esprit à travers les concepts qui, chez Spinoza, permettent de voir cette égalité à l'œuvre, et notamment le concept d'affect, et donc d'ouvrir le champ des affects, non seulement pour comprendre ce que c'est qu'un affect, mais pour éclairer rétrospectivement l'unité du corps et de l'esprit, de la donner à voir en acte, puisque l'affect implique à la fois une modification de la puissance d'agir du corps, que ce soit une augmentation, une diminution, une aide ou une contrariété, et en même temps, l'idée de cette affection. Donc j'ai dû réfléchir sur ce « en même temps » et cette égalité, et voir que cette égalité impliquait des différences, et donc amener à travailler plus finement sur les rapports corps-esprit chez Spinoza, et surtout la relation entre les attributs, voir ce que ça pouvait être, cette doctrine de l'expression, et ne pas la penser, au fond, comme la répétition du même dans chaque attribut. Alors ça a été le premier aspect de mon travail.
Le pointillisme.
Voilà, le pointillisme. Pointillisme qui a des effets sur les interprétations d'ensemble, puisque ça amène à les revoir. Donc, c'est le grain de sable qui vient enrayer les interprétations et qui amène à les repenser. Donc, c'est pas seulement le point pour le point, mais c'est le point en ce qui va constituer aussi des lignes de force interprétatives. Et dans cette lignée-là, des lignes de force, je crois que mon travail s'est beaucoup appuyé sur Spinoza, puisque si on applique la théorie du conatus de façon universelle, comme Spinoza nous invite à le faire, chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être, eh bien, les idées, en tant que choses pensantes, elles aussi ont un conatus, elles persévèrent dans leur être, et ce qui m'a intéressé, c'est de voir la persévérance des idées de Spinoza dans leur être, en me penchant non seulement sur leur réception, mais sur une logique de l'usage, et moi-même en faire usage, c'est-à-dire comment on peut continuer à penser avec Spinoza ou contre Spinoza en se plaçant dans la logique de cette force des idées qui continue de persévérer, de produire des effets, hein, cette logique de l'efficience des idées, parce que Spinoza offre un cadre de pensée qui peut aider à créer de nouveaux objets, qui peut aider à reprendre des interprétations de manière contemporaine. Et ça me permettait aussi de comprendre mieux comprendre la portée de ce monstre qu'avait été pour moi l'anomalie sauvage, de voir qu'il pouvait y avoir une logique de l'usage, et que cette logique de l'usage n'était pas forcément une logique du vrai, mais que ce n'était pas gênant. Autrement dit, quand les idées persévèrent dans leur être, quand elles produisent des effets, ben, ces effets, ils sont liés à des rencontres avec d'autres êtres.
Et tu veux donc, dire les idées fausses aussi persévèrent dans leur être.
Voilà, les idées fausses persévèrent dans leur être. Autrement dit, Spinoza peut produire des effets en fonction aussi de la nature de celui qui reçoit sa pensée. Et donc, qui peut opérer des torsions, et que ces torsions, il n'y a pas à les condamner. À partir du moment où on ne prétend pas que c'est vraiment ce que Spinoza a dit, mais à partir du moment où on utilise Spinoza, puisqu'il va donner une force de pensée pour penser autrement, et donc que ce soit des idées vraies ou que ce soit des idées imaginatives, sur le fond, ce qui importe, c'est comment on s'en sert pour produire quelque chose qui a une efficience propre, hein, comment il peut y avoir une logique de l'imaginaire spinoziste, comment, au fond, Spinoza rentre dans une sorte de patrimoine d'auteurs fétiches qui peuvent, de par les affects qu'ils produisent, engendrer de nouvelles pensées, être féconds, au-delà même de l'efficience véridique de sa pensée. Et ça, c'est intéressant parce que on s'aperçoit en réalité que, de toute façon, on ne pense jamais par soi-même, même si c'est parfois le maître mot de la philosophie des Lumières, apprendre à penser, penser par soi-même. Je pense que c'est totalement illusoire. On pense toujours en relation avec les autres. L'idée de sujet pensant conçue comme substance me paraît totalement illusoire. Et ça, c'est encore une leçon liée à Spinoza. On pense avec les autres. Les autres sont en nous et continuent à produire des effets. Ce qui fait que le tien et le mien n'ont guère de sens, je pense, en philosophie ou même dans l'histoire des idées. Puisque à notre insu, c'est parfois les autres qui pensent en nous, même si nous pouvons prendre la responsabilité d'une pensée et considérer que nous en sommes les auteurs. C'est pourquoi le maître mot, je dirais dire, de mon interprétation de Spinoza, c'est Spinoza à l'œuvre, au double sens du terme, c'est-à-dire me pencher sur son œuvre avec toute l'exigence possible de la rigueur qui m'a été inculqué de par l'enseignement d'André l'Écrivain, Alexandre Matron ou Jean-Marie Bessade, donc le pointillisme méthodologique, et en même temps, Spinoza à l'œuvre, comment il continue d'opérer en nous, en moi, en d'autres, à travers les rencontres. Et c'est aussi pour ça que, pour moi, c'est extrêmement important de travailler de façon collective, d'animer un séminaire depuis maintenant presque 20 ans à la Sorbonne avec Pascal Sévrac et Ariel Suami, qui est un espace de rencontre, un espace d'élaboration d'hypothèses, un espace de travail commun où s'élaborent des notions communes, s'élaborent aussi peut-être des fictions qui vont être utiles pour aborder d'autres problèmes plus contemporains.
Oui, tu as parlé d'auteur fétiche et là tu viens de parler de fiction. Est-ce que tu veux dire que Spinoza, comme Nietzsche par exemple, est un auteur que souvent les gens utilisent beaucoup plus pour projeter leur propre imaginaire ou leur propre désir qu'ils ne le font par exemple avec Aristote ou Thomas d'Aquin ou Kant?
Je pense qu'il y a...
Tu veux dire des auteurs qui ne sont pas fétiches et d'autres qui sont fétiches?
Effectivement, je pense qu'il y a des auteurs de cœur et que... au fond, Spinoza déclenche énormément d'affects. Bon, je ne suis pas la première à le constater. Deleuze avait beaucoup mis l'accent sur cette dimension-là. Il y a des espèces de logique affective, de panthéon d'auteurs, une lignée qu'il esquissait Spinoza à Nietzsche. Et je crois que ça tient au fait qu'il y a chez Spinoza une grande souplesse des concepts, au fait qu'il autorise une pluralité de pensées. Parce que sur le fond, quand on regarde la manière dont il présente l'unité de la substance, qu'elle soit conçue comme sous la dénomination de Dieu ou de la nature, il invite en même temps à penser cette unité d'une infinité de manières. On peut concevoir la nature sous l'attribut de l'étendue, sous l'attribut de la pensée ou d'une infinité d'autres manières. Alors ça serait pour un entendement infini. Mais pour les entendements humains, malgré tout, cette possibilité d'avoir une approche de la nature tout entière sous l'attribut étendu ou sous l'attribut pensée est extrêmement précieuse parce que ça autorise tout aussi bien un type de pensée qu'on pourrait qualifier d'idéaliste, hein, on explique toutes les choses sous l'attribut de la pensée, ou un type de pensée qu'on pourrait qualifier de matérialiste en se plaçant sous l'attribut de l'étendu, et de penser la corrélation entre les deux, ils sont tout autant légitimes. Donc je crois que Spinoza est extrêmement libérateur parce qu'il y a une puissance de sa pensée qui laisse à chacun la possibilité d'une approche différentielle, hein, sans qu'on soit fautif et qu'on ait à rendre de compte. On peut très bien, peut-être la plus riche, ça serait effectivement de penser en même temps la relation corps-esprit sous la tribu de la pensée et la tribu de l'étendue, hein, par exemple dans la logique des affects. Mais à partir du moment où on respecte l'impératif de se placer sous un principe explicatif qui serait la pensée ou l'étendue, hein, à partir du moment où on ne fait pas interférer les deux, eh bien, on peut opter pour une option ou pour l'autre. Et ça, je crois que ça met un terme, par exemple, au faux débat en philosophie entre les idéalistes, les matérialistes, il y a des chorales qui sont des chorales byzantines, donc il y a quelque chose de libérateur. Et puis je pense aussi que, je pense à cette logique affective, parce que Spinoza, c'est un auteur qui n'est pas seulement un philosophe spéculatif, mais c'est un auteur qui aide à vivre. Et je crois que dans l'éthique, on peut légitimement, pour revenir à mes premières amours, on peut légitimement y voir un manuel de vie pour chasser la mélancolie, quelque chose qui a une efficience pratique dans la vie quotidienne. Donc c'est un auteur qui, en même temps, a une puissance spéculative tout à fait remarquable, qui peut permettre de réfléchir de façon théorique sur les attributs, sur la manière dont ils se, corrèlent, sur la manière dont on peut penser cette infinité. Donc ça peut finalement attirer des esprits extrêmement portés sur l'abstraction, qui mettent totalement entre parenthèses leur vie singulière propre, et en même temps des esprits qui quotidiennement vont puiser dans Spinoza une source et une ressource pour vivre. Donc je crois que ça explique pourquoi Spinoza touche autant et pourquoi il peut y avoir des lecteurs de Spinoza extrêmement érudits comme des lecteurs tout à fait néophytes, et que ces lectures se croisent pour le plus grand bonheur de tous.
Oui, puisque tu as parlé d'usage, des usages qu'on peut faire de spinozisme, comme tu as écrit d'autres livres, enfin tu as écrit un certain nombre de livres sur Spinoza, tu es reconnue comme une des grandes spécialistes françaises et tu es reconnue internationalement comme spécialiste Spinoza, mais tu as aussi écrit des livres sur d'autres sujets, sur les désirs, sur le corps, sur les parfums, sur les transclasses. En te lisant, moi j'ai souvent l'impression qu'on voit apparaître l'influence ou l'effet de Spinoza, non plus Spinoza comme objet, mais Spinoza comme méthode ou comme démarche pour regarder d'autres objets. Est-ce que je me trompe, ou est-ce qu'il y a encore du Spinoza dans tes autres livres qui ne parlent pas de lui au premier plan ?
Alors, je pense que tu as tout à fait raison, parce que pour moi, il n'y a pas de divorce entre l'histoire de la philosophie et la philosophie. Cette partition me paraît totalement artificielle. Bon, je rappelle que c'est quand même Victor Cousin qui a défini institutionnellement l'enseignement de la philosophie comme se répartissant en histoire de la philosophie, en philosophie générale. Et nous vivons sur ce clivage qui paraît totalement régir nos modes de pensée, qui en réalité paraît totalement inopérant, dans la mesure où précisément quand nous pensons toujours avec tout ce que nous sommes, avec l'héritage de pensée, avec les auteurs qui nous ont marqués. Et c'est la raison pour laquelle dans mon travail de réflexion, ce qu'on appelle plus généralement une philosophie en nom propre, mais pour moi c'est quelque chose justement d'impropre, dans la mesure où il y a aussi encore Spinoza à l'œuvre. Donc dans mon travail philosophique sur le corps, eh bien, je pense que dès le départ, sur le désir ou sur le corps, il y a une marque spinoziste, ne serait-ce que parce que ce travail porte sur une réflexion sur la puissance du corps, et que Spinoza s'est interrogé sur la question de savoir ce que peut le corps, et donc nous invite à méditer sur la puissance corporelle. Donc en ce sens-là, prendre en considération la puissance du corps, en réfléchissant sur la danse, sur sa puissance sexuelle, sur la puissance éthique, c'est s'inscrire dans une lignée spinoziste, c'est-à-dire essayer de déterminer ce que peut le corps, et donc prolonger cette réflexion qui, chez Spinoza, paraît inachevée. Hein, donc, en ce sens-là, il est clair que la ligne de force spinoziste continue à opérer. Et même dans des tentatives de réflexion où on pourrait dire qu'il n'y a plus en apparence la marque de Spinoza, notamment par exemple dans ce travail que j'ai fait sur philosophie de l'odorat. Je pense que en sourdine, Spinoza continue à me tarauder, ou du moins il m'a donné des forces pour le faire, parce que constituer l'odorat en objet de réflexion, ça n'était pas évident dans le contexte philosophique où j'ai voulu commencer à méditer sur ce sens, puisque généralement les philosophes ne considèrent pas du tout l'odorat comme un sens propice à la méditation philosophique. À la rigueur, ils vont valoriser la vue qui va servir de paradigme pour la contemplation chez Platon, ou qui va servir de modèle des idées claires et distinctes. Ils vont valoriser l'ouïe, l'idée qu'il faut entendre pour comprendre. Donc, et ils vont peut-être élaborer une philosophie de la musique. Mais en ce qui concerne l'odorat, généralement, il est relégué du côté de l'animalité, du côté du flair, de ce qui est empirique, mais ce qui n'est pas digne de spéculation. Or, ce qui est frappant chez Spinoza, c'est que sa pensée libère de ses préjugés. Spinoza invite à cultiver, au fond, toutes les aptitudes corporelles, et je pense en particulier au célèbre scoli de la proposition 45 de l'éthique 4, où Spinoza prône un usage des plaisirs, une méthode pour chasser la mélancolie qui consiste à diversifier les aptitudes corporelles. Et moi, j'ai été très, très frappée du fait qu'il ne reprend pas les préjugés du sens commun concernant la frivolité des parfums. Parmi les exemples qu'il donne pour cet usage des plaisirs, évidemment, il va parler de la nourriture et de la boisson.
Le théâtre.
Du théâtre, mais aussi des plantes vertes, de l'usage des odeurs et des parfums, hein. De la musique, mais l'idée qu'on trouve sous la plume de Spinoza la nécessité de cultiver les aptitudes corporelles olfactives, donc c'était légitimer aussi d'emblée une recherche sur la puissance de l'odorat, la puissance du sens olfactif, en montrant que ce n'était pas un objet indigne de réflexion et que... Après tout, puisque la diversification des aptitudes corporelles, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait une diversification des objets de pensée, réfléchir sur l'odorat, c'était précisément aussi faire acte de philosophie, c'était élargir nos horizons, élargir le champ des possibles. Et donc, de ce point de vue-là, il y a, chez Spinoza, il y avait matière à penser, même si c'est une matière ténue, on pourrait dire, même s'il n'a pas développé cette pensée, je crois que là encore, on peut voir en pointillé un fil. Il y a même chez Spinoza, en réfléchissant plus avant, dans le traité de la réforme de l'entendement, ce qui a été aussi précieux pour moi, dans cette recherche de la constitution d'une philosophie de l'odorat, c'est la présence de l'idée qu'on doit rechercher quelque chose qui est une odeur de vérité. Et de ce fait, cela semblait autoriser la possibilité de concevoir un modèle cognitif olfactif, puisque Spinoza ne méprise pas l'odorat en le renvoyant à l'ordre du flair, à quelque chose d'empirique, mais il laisse entendre que la vérité pourra avoir une odeur, et ça fait écho aussi à ce qu'a pu dire Nietzsche, les parfums de vérité tout autre, et montrer qu'il y a dans l'odorat quelque chose de subtil, quelque chose qui va au-delà du visible et qui peut être une force de pensée, d'appréhension des choses qui va au-delà des apparences. Donc la présence de cette occurrence, sans doute, est mince, quelque chose qui a une odeur de vérité, mais ça fait toute la différence du monde quand on essaye d'aller à l'encontre des sentiers battus, c'est-à-dire de vouloir promouvoir aussi une philosophie sagace, une philosophie olfactive, une philosophie dont la vérité pourrait avoir une forme de senteur ou dans laquelle la métaphore olfactive aurait toute sa place.
Oui, il y a autre chose qui me frappe dans ton travail sur l'odorat. C'est que Spinoza, dans le traité théologico-politique et aussi dans le traité politique, insiste sur le fait que, certes, nous sommes individus, mais les individus vivent dans des traditions nationales. Il insiste beaucoup sur le fait que chaque tradition nationale, les Romains, les Hébreux, les Hollandais, etc., etc., chacune a ce qu'il appelle son ingenium, hein, sa personnalité propre, et donc, qu'entre le corps de l'individu et la réalité objective qu'il rencontre, il y a cet ingenium national qui colore autrement le réel auquel il est confronté. Et ce qui me frappe, c'est qu'on trouve à peu près la même chose dans ton travail, parce que tu découvres au fur et à mesure que tu étudies ce problème de l'odorat, que par exemple les Japonais ont à l'égard des parfums une attitude très différente, une tradition culturelle très différente de celle des Français ou celle des Occidentaux en général. C'est-à-dire qu'alors qu'on penserait spontanément que le rapport au parfum est un rapport naturel qui concerne notre corps, notre relation au corps, notre relation à la nature, on se rend compte que ce rapport corporel est médié par une tradition culturelle qui a tout son poids, toute son épaisseur dans la façon dont nous percevons le monde.
Effectivement, tu as raison de mettre en avant la notion d'ingenium chez Spinoza, parce qu'elle permet d'appréhender ces différences culturelles, ces différences nationales qui sont marquantes, je le vois d'autant plus dans mon approche de l'odorat, que ce qui a été un obstacle pour moi à la revalorisation de l'odorat, à sa réhabilitation, c'est le fait que dans la tradition nationale française, l'une des seules voies possibles pour valoriser les odeurs a été la parfumerie d'art. Or, évidemment, comme cette parfumerie est aussi prise dans des relations commerciales, l'inventivité est parfois discutable. Et de ce fait, j'avais été frappée de constater que par rapport à d'autres sens, l'odorat n'avait pas donné lieu à une esthétique aussi valorisée que la musique ou que la peinture. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aussi sortir un petit peu de ce cadre national et essayer de voir si dans d'autres cultures, en me penchant sur d'autres ingenii plutôt, on pouvait trouver des formes d'art à part entière de type olfactif. Et ça a été pour moi une découverte immense que de voir que dans le Japon traditionnel, il y a un art des fragrances, ou plus exactement une voie des fragrances, qui est le kodo. Et cette voie des fragrances consiste à respirer des parfums de bois aromatiques, à les apprécier. On parle d'une écoute des fragrances pour montrer le caractère attentif et le caractère raffiné de cette pratique. On écoute les fragrances. Et ces fragrances sont jumelées à des poèmes, à la littérature, et donnent lieu donc à un art unique qui est très prisé par les amateurs, qui implique une grande subtilité puisqu'il faut aiguiser ses sens pour arriver à discerner des odeurs. Il y a des compositions olfactives qui sont données à sentir et les participants doivent les reconnaître. Donc c'est comme une sorte de concert olfactif. Et en ce sens-là, me pencher sur un autre type d'ingenium que l'ingenium occidental m'a permis de sortir d'une forme de préjugé sur laquelle l'odorat ne serait pas capable de donner lieu à des œuvres d'art, préjugé qui est repris et thématisé de façon spéculative entre guillemets par Hegel, disant que l'odorat et le goût, comme ce sont des sens chimiques, ils sont voués à l'évanescence, à la dissolution, ils sont incapables d'exprimer l'esprit. Donc pour moi, travailler sur le Japon, aller voir d'autres cultures, c'était une manière de montrer qu'en réalité, il y a une puissance olfactive qui est en même temps capable d'exprimer l'intelligible dans le sensible. Et cet art très très lettré du kodo a été une sorte de contre-épreuve et de validation de mon intuition initiale. Et je pense qu'il y a aussi dans la philosophie de Spinoza quelque chose qui m'a aidé à comprendre cette esthétique olfactive qui se dégage du kodo, puisque là je vais aux limites de ma propre pensée, c'est une culture qui m'est étrangère, et il est toujours difficile d'aborder une culture étrangère, on est obligé d'assumer précisément le fait qu'on le regarde de manière extérieure et qu'on ne sera jamais parfaitement intégré dans cette culture, et de ce fait ça peut être une position tout à fait intéressante, parce qu'on peut poser des questions qu'un autochtone ne se posera pas. Mais je pense qu'il y a chez Spinoza quelque chose qui m'a aidé à comprendre cette culture, c'est qu'il y a dans sa philosophie une forme de méditation sur le passage. On est sans arrêt dans une pensée du passage, passage de la joie à la tristesse, de la tristesse à la joie. Donc, il faut comprendre le passage et le passager. Hein. Et pour pouvoir entrer dans l'esthétique des fragrances japonaises, la pensée comme un art, il faut sortir du modèle culturel occidental selon lequel une œuvre d'art est immortelle, pérenne, un antidestin pour parler comme Malraux. Il faut comprendre la valorisation de l'impermanence, du passager, du fluide. Et il y a aussi chez Spinoza une pensée des corps fluides qui m'a aidé à appréhender cette esthétique comme une esthétique ténue, une esthétique de la magnificence dans l'impermanence. Et je crois que même de façon souterraine, Spinoza continue à opérer. Et pour aller peut-être encore plus dans ton sens, le concept d'ingenium spinoziste a été très très précieux dans un autre cadre aussi, celui des transclasses, hein, ou de la non-reproduction. Là encore une fois.
Donc là, quand tu écris un livre, on te sens à la frontière des questions philosophiques et sociologiques.
Voilà, cette fois-ci, c'est une forme de déportation vers un objet qui, a priori, ne serait pas censé être un objet philosophique, mais que j'ai voulu constituer en objet philosophique, donc pour aller toujours au-delà des limites assignées institutionnellement à la philosophie, pour en quelque sorte élargir ses horizons. J'ai voulu penser le changement de classe sociale de manière libérée de tout préjugé axiologique, sans valorisation des parcours, que ce soit sous la forme de ce qu'on appelle généralement l'ascension sociale ou inversement du déclassement. Je l'ai pensé sous la dénomination du terme transclasse, qui me paraissait neutre, mais là encore une fois, c'est l'idée. Dans le transclasse, l'idée qu'on passe de l'autre côté, c'est l'idée du passage. Hein. Le concept de passage chez Spinoza, de transition, va être décisif là-dedans, puisqu'il s'agit de comprendre ce passage, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'empêche et qu'est-ce qui le permet, hein, qu'est-ce qui permet d'augmenter sa puissance d'agir ou qui, au contraire, la diminue dans ce passage. Quand on change de classe sociale, en effet, il n'est pas écrit d'avance que ce passage soit forcément une augmentation de la puissance d'agir. S'il s'agit par exemple de quitter une condition misérable pour une condition sociale économiquement plus favorisée, ça n'implique pas pour autant, malgré les gains économiques, qu'on ait accru sa puissance d'agir, puisqu'on peut très bien être dans une forme de joie passionnelle et non pas une joie active, la joie de celui qui domine les autres et qui les regarde en devenant le chien de garde du pouvoir. Donc c'est pas nécessairement une promotion. De la même manière, celui qui se déclasse entre guillemets, qui va voir sa condition par exemple économique diminuer, peut aussi élargir ses horizons en étant amené à fréquenter des personnes d'un autre milieu qui vont l'amener à déconstruire les codes d'appartenance à sa propre société, à sortir de l'entre-soi. Et donc, ce n'est pas nécessairement, dans une vision misérabiliste, un déclassement, c'est peut-être au contraire un élargissement de sa pensée. Donc, penser les passages, c'est quelque chose qui a été vraiment décisif. Et là, encore une fois, la philosophie de Spinoza a été précieuse pour mettre l'accent sur la dimension du passage, parce que généralement, dans les pensées de la mobilité sociale, on se donne d'avance ce qu'il s'agit précisément d'expliquer, c'est-à-dire le fait que ça puisse bouger, hein, sachant que précisément la reproduction sociale continue de valoir. Hein, je l'ai pensé, et là encore, Spinoza m'a fourni des cadres pour l'aborder, je l'ai pensé dans un cadre déterministe, hein, où la loi de la reproduction sociale n'est certes pas une loi d'airain, une fatalité, mais elle continue de valoir. Et donc, comment, dans un cadre déterministe, où pèse toute une série de contraintes sur les individus, on peut changer, alors que les institutions, les conditions économiques semblent empêcher tout changement. Donc, voilà pourquoi l'objectif, c'était encore une fois de penser une puissance d'agir dans un cadre déterministe. Et Spinoza pouvait fournir un cadre, puisque ce n'est pas pour moi d'exalter la vertu de l'individu qui s'échappe par une sorte de libre arbitre ou de volonté toute puissante aux cadres sociaux, hein, puisque je pense que la plupart du temps, quand on aborde les questions des transclasses, on est dans l'ordre de la fiction, soit de la fiction du self-made man qui, à la force du poignet, gravit tous les échelons, en oubliant évidemment tous ceux qui l'ont forgé et qui lui ont fait la courte échelle, donc comme s'il était possible de se faire de rien. Ou ceux qui pensent en termes de transfuge de classe, et dans ce cas-là, on a la figure encore d'un individu, mais qui s'arrache à la violence culturelle, économique, et qui trahit d'une certaine manière sa classe. Donc ces deux fictions devaient être écartées au profit de ce concept de transclasse à penser dans un cadre à la fois déterministe et aussi dans un cadre d'interaction entre les modes. Hein. Et j'ai beaucoup réinvesti dans cette recherche le concept spinoziste d'affect, hein, pour montrer que nous sommes perpétuellement modifiés par les causes extérieures et nous les modifions à notre tour. Donc, penser des trajectoires, c'est toujours les penser en corrélation avec d'autres. Et c'est la raison pour laquelle on ne part pas tout seul, on est mis à la porte ou porté par son milieu, ou on est fabriqué aussi bien par le milieu d'origine que par le milieu d'arrivée, puisque la reproduction ou la non-reproduction sont aussi orchestrées par la classe dominante qui peut avoir besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et qui peut avoir besoin aussi de forger des transclasses pour permettre de maintenir l'ordre social, d'offrir de l'espoir et une soupape de sécurité au conservatisme social. Et penser toutes ces déterminations ensemble pour comprendre un transclasse, c'est-à-dire à la fois les affects, les conditions économiques, le rôle des institutions, les modèles alternatifs, il fallait pouvoir les penser aussi ensemble. Et c'est pourquoi le concept d'ingenium a été un concept extrêmement précieux pour comprendre qu'un transclasse, c'est le fruit d'une complexion affective qui noue différentes déterminations, qu'elles soient économiques, sociales, familiales, et en même temps affectives, puisque nous sommes faits des rencontres, nous sommes faits aussi de nos affects, de la honte, de la fierté, et comment tout cela se noue dans un transclasse pour produire une autre trajectoire. Et le concept d'ingenium, à travers la traduction aussi française qu'on en donne, de complexion, me permettait de penser tous ces fils tressés ensemble, puisque l'idée de complexion, c'est aussi l'idée de fils qui sont noués. Hein. Il faut penser tous ces fils noués ensemble sans en omettre aucun. Et ça permettait aussi de penser le lien entre le transclasse, qu'on a tendance à séparer du reste, et son milieu, puisque les fils peuvent être distendus avec son milieu. Ils peuvent être renoués, ils peuvent être brisés, mais toujours, il faut penser cette relation avec milieu d'origine et milieu d'arrivée. On ne peut pas penser un transclasse indépendamment de ces relations. Donc là, encore une fois, il ne s'agissait pas de lui accorder un statut substantiel, mais un statut modal, et de penser dans des catégories spinozistes, de les réinvestir dans un champ où Spinoza, évidemment, n'avait pas poussé sa spéculation, ce n'était pas son objet, hein, bien qu'il ait pu faire allusion quand même à la notion de classe sociale, que ce concept soit enfin, un concept strictement sociologique qui a déjà des traces chez Spinoza, bien sûr, chez d'autres auteurs, principalement chez Marx. Ça donne aussi la possibilité de penser la notion de classe en termes philosophiques et de changement de classe, comme j'ai pu le faire pensant à un objet qui est à la croisée de plusieurs champs. Hein. Et donc là, c'est bien encore, d'une certaine manière, Spinoza qui est à l'œuvre, hein, qui peut me fournir des concepts, qui peut me fournir des impulsions, une confiance aussi pour oser m'aventurer dans des terrains où finalement je peux être en péril face à une culture étrangère. On peut toujours avoir le sentiment de l'imposture face à un objet qui n'est pas constitué. On peut toujours avoir l'impression qu'on peut être on peut avoir manqué à son objectif ou qu'il y a quelque chose qui est boiteux. Donc il faut bien pour pouvoir oser penser qu'on ait des sources et des ressources et que l'on sente derrière soi aussi à l'œuvre, à titre posthume, des individus qui nous aident par leur pensée et qui nous habitent et qui continuent à travers nous à s'exprimer d'une certaine manière, même si ne se reconnaîtraient pas forcément dans les effets qu'ils ont pu produire en nous.